Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. C'est l'événement économique africain de la semaine. La Banque africaine de développement a un nouveau président et il s'agit de l'ancien ministre mauritanien de l'économie, Sidou Ould Tah. Retour sur l'ambiance de cette élection, mais aussi sur les priorités du nouveau président de la BAD et sa marge de manœuvre. Dans la lutte contre la pauvreté en Afrique, nous en parlons largement dans les échos de la semaine. Dans le Zoom Express, il sera question de formation des cadres africains dans un contexte d'évolution des outils et de percées numériques. Nous serons au Togo pour en parler. Et notre destination écho de la semaine nous mène au Sénégal. Ce sera pour parler de la deuxième édition du forum Invest in Sénégal qui a été lancé. L'objectif est de trouver des investisseurs pour la vision Sénégal 2050. Vous aurez les détails avec Maréma Diop à Dakar. Tels sont les sujets de notre émission pour cette semaine. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Je vous le disais à l'instant, c'est l'événement économique africain de la semaine. La Banque africaine de développement a un nouveau président et il s'agit de l'ancien ministre mauritanien de l'économie, Sidi Ould Tah. Sidi Ould Tah a également dirigé pendant une décennie la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, direction Abidjan en Côte d'Ivoire, pour revenir sur l'ambiance des élections de son nouveau président de la BAD dans ce compte-rendu de notre correspondante sur place, Mélissa Koné.
L'ancien ministre de l'économie de la Mauritanie, Sidi Ould Tah, a été élu président du groupe de la Banque africaine de développement à l'occasion des assemblées annuelles 2025 tenues à Abidjan. L'annonce officielle des résultats a été faite par Niale Kaba, ministre ivoirienne du plan et du développement et présidente du conseil des gouverneurs du groupe de la banque. Sidi Ould Tah s'est imposé avec 76,18% des voix à l'issue de 3 tours de scrutin face à 4 autres candidats en lice. Sidi Ould Tah, nouveau président de la BAD.
Je remercie tous mes frères et toutes mes sœurs mauritaniennes, toutes mes sœurs et tous mes frères africains, pour l'élan de solidarité qui va accompagner ma campagne. J'ai le devoir aussi de remercier tous ceux qui ont appuyé ma candidature, de près ou de loin.
Le nouveau dirigeant de l'institution panafricaine a occupé plusieurs postes de haut niveau, notamment à la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Un profil salué par les membres du Conseil des gouverneurs. Boubacar Mohamed, membre du consulat mauritanien. Mahamat Mamadou Djintebaï, CEO.
Je suis très content pour le docteur Mohamed Sidi Ahmed Ould Tah, président de la banque Le BAD. Aujourd'hui, je suis là pour le supporter. Puis je suis sûr que la banque, ça va avancer ici à 5 ans. On va voir ce qu'Sidi va faire.
Les élections se sont bien passées. Et dans un bon timing, il y a eu 5 beaux profils. Et au final, c'est le Mauritanien qui s'est démarqué, qui mérite amplement pour, par rapport à son parcours. Et je me réjouis parce qu'aujourd'hui, d'abord, c'est un francophone qui revient. Et aussi, c'est quelqu'un du Sahel comme nous, tchadiens. Donc, c'est une bonne chose.
Sidi Ould Tah devient ainsi le 9e président de la Banque africaine de développement. Il prêtera serment le 1er septembre 2025. Mélissa Koné, Abidjan, Mehdi 1.
Merci à vous, Mélissa Koné. Comme le disait Mélissa à l'instant, sachez que c'est en septembre prochain que le nouveau président de la BAD va entrer en fonction. D'ici là, il aura le temps de peaufiner son plan d'action opérationnel. Justement, quelles sont ses priorités et sa vision à la tête de la BAD? Écoutons l'analyse de notre consultant Idriss Lindié, directeur des rédactions de Média Mania.
Peut-être que sa vision à lui va peut-être résider dans son approche. Outa est connu pour avoir la capacité de renforcer les moyens d'intervention de la BAD. Il l'a fait déjà à la BADIA, à la Banque arabe de développement des États d'Afrique. Il a fait déjà ce travail lorsqu'il était président de cette institution. Il prévoit aussi de rendre effectif quelque chose qui est discuté, mais qui prend toujours du retard. Ce qu'on appelle le mécanisme africain de stabilité financière, le Fonds monétaire africain. Il pense qu'il va mettre cela en place. Il prévoit aussi d'accélérer l'industrialisation du continent. C'est absolument important. L'industrie africaine a besoin de ressources. Et puis, il a une vision qu'il veut centrer sur l'Afrique. Et c'est vraiment, finalement, une personne qui a effectivement une bonne connaissance du continent africain. Lui qui a dirigé une banque de développement régional avant. Donc, sa vision s'articule tout ça. Mais bien évidemment, nous aurons sa vision claire le jour où il prendra ses fonctions et parlera de son ambition en tant que président en exercice et non plus seulement élu président en exercice de la Banque africaine de développement.
Une feuille de route donc claire pour le nouveau président, mais cela dit, les défis et les obstacles ne manqueront sûrement pas. Justement, Idriss Lindié, parlez-nous des défis qui attendent Sidi Oldouta.
Il doit penser à plusieurs choses. Il y a des dossiers en cours. Les high five qui ont été laissés par Akinwumi Adesina. Donc, la question c'est, est-ce que le docteur Sidi Oldouta va continuer avec les processus en cours? Va-t-il les suspendre? C'est des questions quand même qu'il faudra adresser avec des arbitrages qui peuvent être complexes. La deuxième chose, c'est que quand même, la Banque africaine de développement continue d'avoir le défi d'avoir un capital possible qui est important, mais des engagements, des contributions concrètes qui sont, disons, un tout petit peu beaucoup plus faibles. Là, on est sur 318 milliards de dollars de capital possible pour la banque. Mais maintenant, il faudrait que ces 318 milliards de dollars se transforment en cash concret. Et généralement, les pays contribuent très peu. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les redéfinitions de priorités par les pays non membres, enfin, les membres non régionaux de la Banque africaine de développement qui sont plus centrés sur leurs propres problèmes, qui ont besoin de plus de ressources pour régler des problèmes sociaux dans leur juridiction, font en sorte qu'il y ait une crainte que peut-être que les bailleurs ne suivent pas tous avec la même constance que par le passé. Donc, maintenant, Sidi Oldouta, il vient quand même d'une institution qui a travaillé avec des États arabes qui ont aujourd'hui une vraie ambition de déployer du capital sur de nouveaux horizons. Le Moyen-Orient l'a montré ces dernières années. Mais bon, voilà. Donc, et après, il faudra travailler avec des pays africains qui ont divers degrés de développement économique, diverses priorités en termes de politique monétaire, de politique budgétaire, et où finalement, parfois, la moindre petite mission peut se transformer en une tâche herculéenne.
Zoom Express.
Et dans le Zoom Express, nous parlons de la formation des leaders africains de demain, mais aussi comment réussir cette formation en faisant preuve d'innovation, notamment dans le digital et l'inclusion. Donc, de tous ces talents, nous avons le plaisir d'en parler avec Fulgence Amani. Il est le directeur général et cofondateur de Lomé Business School. Nous sommes donc au Togo. Bonjour à vous, Fulgence Amani, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation.
Avec nous également Moustapha El Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique. Best Afrique qui connecte les diasporas donc africaines entre elles. Bonjour à vous Moustapha El Bouri.
Omar, bonjour.
Alors, c'est un plaisir de vous avoir tous les deux. Je vais commencer par Moustapha El Bouri. Tout d'abord, Moustapha El Bouri, quand on parle de la valorisation de cette diaspora africaine, mais aussi d'internationaliser l'enseignement supérieur africain, on parle donc de priorité stratégique. Alors, comment aujourd'hui faire en sorte qu'il y ait une sorte de passerelle, hein, de passerelle surtout efficace entre les talents africains et surtout ces dispositifs qu'on met pour encourager la mobilité des apprenants et des étudiants?
Oui Omar, c'est une question très pertinente. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de talents qui sont issus de la diaspora. Maintenant, ces talents-là, il y a deux façons de les faire contribuer. Soit on fait en sorte qu'il y ait un environnement qui soit propice pour qu'ils reviennent sur le continent et donc dans leur pays, soit ils peuvent éventuellement aussi contribuer à distance. Donc pour ça, je pense qu'il faut vraiment lever certains freins qu'on a aujourd'hui. Et pour moi, il y en a deux qui sont vraiment majeurs, des freins majeurs. C'est d'une part, il faut qu'il y ait une visibilité des opportunités qu'il y a sur le continent. Que ce soit bien visible, et également l'accès aux bons dispositifs, pour reprendre un terme un peu utilisé très, très fréquemment en termes de formation. Mmh. Et aujourd'hui, il y a des programmes d'incubation, bon, je pense qu'on va en parler avec Fulgence, il y a beaucoup de programmes d'incubation et de mobilité qui existent, mais je pense que ces programmes-là sont trop peu de ces programmes sont pensés avec la diaspora. Il faut les inclure pour des projets qui sont implantés aussi localement. Donc ce qu'il faudrait, je pense, d'après moi, c'est créer des passerelles, comme vous l'aviez très bien cité, Omar. Il faut créer des passerelles sur mesure. Donc il faudrait qu'il y ait des hubs un peu mixtes, des programmes qui soient de part et d'autre de chaque continent, comme on dit bicontinentaux. Il faudrait également, je pense, certains pays le font déjà, comme le Maroc, il faudrait qu'il y ait des guichets d'entrée qui soient clairs pour des talents de la diaspora, qui veulent s'engager, qui veulent entreprendre ou encore qui veulent investir sur notre continent. Je terminerai surtout en disant qu'il faut accompagner ces talents, Omar, dans la durée. Le retour ne doit pas être un acte militant comme on fait aujourd'hui, hein, mais il faut que ce soit vraiment une opportunité économique et professionnelle.
Accompagner ces talents dans la durée, mais cela exige aussi d'avoir un cadre de formation au niveau, en tout cas sur le continent, notamment sur des métiers présents et d'avenir. Et pour cela, je me tourne vers Fulgence Amani, directeur du Lomé Business School donc, au Togo. Alors, parlez-nous de votre cas. Comment réussissez-vous à donner une formation qui permet aujourd'hui de répondre à ces besoins-là, notamment du marché?
Merci. Donc, Lomé Business School, qui est lancé depuis le 2013, s'est lancé exactement pour répondre à cette question d'employabilité des jeunes de la sous-région. Dans les différentes actions aujourd'hui qui nous permettent de combler un taux d'emploi de 92%, on a d'abord le modèle de positionnement. Donc, c'est une école qui s'est positionnée tout de suite dès le lancement en hub sous-régional avec aujourd'hui 13 nationalités d'étudiants issus principalement de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi de l'Afrique centrale. Le deuxième point a été effectivement quelle offre de formation. Donc, ce sont des formations orientées sur l'IT, avec du développement d'applications, l'intelligence artificielle, le marketing digital, donc des métiers d'actualité à la fois dans notre région, mais aussi pour les entreprises étrangères qui sont déployées en Afrique. On a aussi, côté gestion des métiers de la logistique, on le réalise tous qu'effectivement, l'une des forces du continent, c'est qu'on a Quand vous prenez effectivement, la plupart des vous prenez effectivement la sous-région simplement ouest-africaine, on a au moins 6 pays qui ont une ouverture côtière. Donc la logistique est un métier effectivement prioritaire aussi. Donc c'est l'une de c'est l'un de nos axes de formation. Mmh. On a également tout ce qui va être autour de la finance, et puisque effectivement toutes les entreprises, à la fois pour des besoins d'investissement de la diaspora, pour accélérer effectivement des PME qui existent, on a besoin d'avoir des talents financiers au standard international.
Excellent. Je pense que c'est une très belle présentation et surtout je retiens ce chiffre de 92% donc de taux donc d'accès à l'emploi par rapport à ce type de formation et quand on prend le cas de votre école. Alors Moustapha El Bouri, alors quels sont les modèles les plus porteurs aujourd'hui hein, pour structurer une nouvelle génération d'acteurs locaux au niveau du continent africain, parce qu'on a besoin de ces talents aujourd'hui qui ne sont pas seulement formés selon les modèles anciens, mais qui comprennent les réalités d'aujourd'hui et qui sont au diapason de l'évolution technologique, parce qu'on parlait d'innovation numérique, mais surtout quand on pense à l'intelligence artificielle, quelle est aujourd'hui cette recette magique ou nécessaire pour que nos talents puissent être à jour par rapport aux enjeux actuels?
Oui, Omar, tout à fait. Je vais reprendre un point qui a été cité par Fulgence, que je trouve très pertinent. Et c'est pour moi, c'est ce qui fonctionne et c'est ce qui fonctionnera le mieux aujourd'hui. Mm-hmm. Ce sont les modèles, ce qu'on appelle les modèles hybrides. Les modèles hybrides, c'est quoi? Il faut un modèle à la fois à la croisée de la formation professionnelle et également de l'entrepreneuriat et surtout du terrain. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont présentes. Mais il y a énormément d'écoles qui sont purement théoriques. Et ça ne suffit plus. Autant c'était peut-être suffisant dans le passé. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait une expérience terrain. On voit émerger des centres de formation ancrés dans l'économie locale. Et c'est très bien. Maintenant, il faut que ces centres de formation soient en partenariat avec des partenaires privés. Mmh. Il faut mettre des incubateurs aussi. Il faut intégrer des incubateurs dans ces écoles. Et parfois même aussi donner un accès direct au marché. Donc il faut des formations courtes, qui soient professionnalisantes et qui soient très orientées surtout avec des compétences concrètes, mais également avec une vraie exigence pédagogique derrière. Mm-hmm. Donc un autre levier, je dirais puissant, Omar, c'est le mentorat. Il faut qu'il y ait un mentorat par des pairs aujourd'hui, ça se fait beaucoup en Occident, aux États-Unis. Il faut qu'il y ait des mentors, ça se fait pas encore beaucoup sur notre continent. Il faut qu'il y ait des mentorats par des pairs, par des anciens, et surtout une mise au réseau qui accélère, je dirais, l'entrée de tous ces étudiants là dans l'emploi ou dans la création d'activités.
Mmh. Alors, je me tourne vers Fulgence Amani, directeur de Lomé Business School. Alors, Moustapha El Bouri parlait de ses partenariats avec le secteur privé parce que des fois on reproche à ces formations là d'être trop dans la théorie et moins dans la pratique. Justement pour mieux permettre à ces jeunes dirigeants, à ces nouveaux talents, de mieux s'imprégner des réalités du terrain. Comment menez-vous cette insertion en partenariat avec le secteur privé?
Oui, donc Moustapha a totalement raison et je pense que c'est l'orientation, ça doit être aujourd'hui la raison d'être des écoles. Donc pour nous, les entreprises, les institutions sont vraiment au cœur du développement du modèle. Donc on développe à la fois, on va dire, le nombre d'étudiants avec le nombre d'entreprises partenaires. Donc, voilà, notre discussion aujourd'hui tombe très bien parce que ce vendredi, ce samedi, nous avons la 11e édition de nos journées Intello. Ce sont des journées d'innovation où on regroupe une trentaine d'entreprises face à des jeunes étudiants, non pas que des étudiants de l'Ome Business School, mais des étudiants de tout l'écosystème, effectivement, au Togo qui sont invités. On s'adresse à entre 500 et 700 jeunes qui vont être directement en contact avec les entreprises, qui vont faire des pitch projets pour faire un lien aussi avec la promotion des incubateurs de l'innovation entrepreneuriale que citait Moustapha, mm-hmm. et aussi pour pouvoir décrocher leur premier stage en entreprise. Mm-hmm. Donc, dans l'évolution des parcours académiques au sein de notre école et au sein aussi des institutions aussi de la place, avec la promotion des stages entreprises, et donc de l'implication des entreprises dont nous faisons la promotion. Les étudiants décrochent un stage chaque année. Ils ont des moments d'interrogation sur quel est le modèle économique des entreprises, les types de besoins. Et donc, du coup, ils intègrent ça dans leur parcours et on sort du cadre purement théorique pour brancher se brancher à la pratique dès la première année. Donc vraiment, le point très innovant à Lomé Business School, c'est de faire 100% de stages pour tous les étudiants dès la première année, de sorte à pouvoir offrir, proposer des compétences aux entreprises dès la sortie de l'école, et aussi proposer des compétences à ceux qui veulent entreprendre avec l'appui, effectivement, et l'interaction avec des incubateurs de la sous-région.
Donc, appuyer non seulement en termes de présence dans le privé, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Merci à vous, Fulgence Amani, directeur général donc, de Lomé Business School. Vous nous parliez depuis le Togo. Merci également à Moustapha El-Bouri, directeur général de la plateforme Best Afrique, qui nous accompagne dans cette rubrique. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation.
Destination Éco.
La deuxième édition du Forum Invest in Sénégal a été officiellement lancée cette semaine par le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. L'objectif est de trouver des investisseurs pour accompagner la vision Sénégal 2050. Plus de détails dans ce récit de Marema Diop à Dakar.
Le Forum des investissements du Sénégal s'inscrit dans une volonté de rendre le pays plus compétitif sur le plan international. Le lancement de la deuxième édition a été l'occasion de démontrer que le Sénégal constitue toujours une destination favorable aux investissements.
Le Sénégal est attrayant. Je n'ai pas besoin de revenir sur tout ce qui a été dit. Il est plus qu'attrayant de par sa position géographique, sa stabilité politique, sa sécurité dans tout son espace, en tout cas à l'intérieur de ses frontières. Il est attrayant par sa démographie, qui doit être transformé en dividende et non pas en risque ou en charge. Cela passe par la formation de nos jeunes.
D'ailleurs, le secteur privé sénégalais reste engagé à accompagner les autorités publiques dans différents domaines d'investissement.
Nous allons investir aussi dans la coopération académique par la signature imminente de conventions avec des établissements polytechniques locaux pour préparer les compétences industrielles dont nous aurons besoin demain. Nous allons investir sur l'intégration verticale et la diversification de nos activités pour mieux maîtriser nos chaînes de valeur.
Le Forum Invest in Sénégal, encore appelé FI Sénégal, est prévu les 7 et 8 octobre prochains. Ce rendez-vous sera l'occasion de présenter les atouts dont dispose le Sénégal. Le lancement a également été un moment privilégié pour exposer les projets inscrits dans la vision Sénégal 2050.
Merci à vous, Marema Diop, correspondante de Médien à Dakar. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Médien Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Médien et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.